Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Joanne Boachon.
Bonjour Julien.
Nous sommes dans le podcast 2030 glorieuses, dans lequel moi je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons ensemble parler du milieu du bâtiment, notamment des ressources colossales utilisées par ce secteur. C'est un enjeu de taille auquel toi, tu apportes une réponse avec Mineka, que tu as cofondée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, tout à fait. Alors, Mineka, c'est une association que j'ai cofondée avec d'autres architectes. En effet, moi, je suis architecte de formation. Et en fait, en 2016, après... quelques années de pratique dans diverses agences d'architecture dans ma ville de Lyon. J'ai commencé une formation qui s'appelle l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui permet en fait de s'inscrire à l'ordre des architectes et de signer des permis de construire et donc de monter sa boîte d'archi. Et en fait, lors de cette année de formation, il faut écrire un mémoire sur sa posture d'architecte. Et moi, dans mon mémoire, j'ai parlé du réemploi de matériaux. Et donc, c'est là où j'ai découvert, où j'ai approfondi cette pratique du réemploi et où, en fait, dans ce mémoire, j'explique que je veux faire du réemploi de matériaux, que je veux construire avec des éléments qui vont être rejetés, mais qui sont encore utilisables. Et en fait, en interrogeant diverses personnes de la pratique, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était compliqué parce que en fait, il n'y avait pas d'endroit où se fournir. Et donc du coup, avec mon petit diplôme, ma formation en poche, en supplément, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que je vais être confrontée au même problème que mes confrères et mes consoeurs. Et donc, j'ai décidé de retourner le problème avec d'autres archis et de créer un endroit où se fournir. Et c'est comme ça que Mineka a commencé.
Donc en fait, Mineka, pour bien expliquer concrètement, c'est une association qui existe à travers un lieu où on peut aller se servir en matériaux de construction revalorisés.
C'est ça. En fait, notre objet social, c'est de démocratiser le réemploi dans la construction. Et pour ça, on a plusieurs moyens d'action. Et donc le premier, c'est de collecter des matériaux auprès de chantiers ou d'entreprises de la construction. C'est des matériaux qui sont destinés à être jetés, mais qui sont encore utilisables. On récupère par exemple beaucoup d'éléments qui sont neufs. Et après, on les redistribue à prix solidaire à travers le Minestock, qui est notre plateforme de matériaux de réemploi à Villeurbanne.
Toi, tu l'as dit, tu as fondé cette association, tu as une formation d'architecte. J'aime bien commencer par la porte d'entrée métier. Toi, comment tu décrirais ton métier aujourd'hui ?
Alors moi, je suis plus du tout architecte. J'ai arrêté l'architecture il y a 4 ans, quand j'ai fondé Mineka, parce que monter un projet comme ça, c'est énormément chronophage. C'est, en gros, c'est monter une entreprise parce qu'à l'époque où on a commencé, il n'y avait absolument rien du tout. Et donc, voilà, il fallait faire une étude de faisabilité, des études de marché. Et donc, aujourd'hui, je dirige l'association, la gestion de l'association. Et en plus de ça, en plus de la collecte et de la redistribution des matériaux, on a développé une sorte de pôle conseil où en fait on conseille les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage, donc ceux qui construisent et ceux qui font construire dans leur démarche d'économie circulaire pour que sur leur chantier de construction ou de déconstruction, il y ait le moins possible d'éléments qui vont être jetés. Et donc, ça peut s'apparenter, si tu veux, à un bureau d'études en réemploi.
Donc, du coup, tu es... comment on le dirait ? En fait, j'aime bien essayer d'arriver à mettre des mots sur ces emplois de demain.
Tout à fait. Bah, on peut dire expert en réemploi dans la construction.
Allez, super. On prend. Adjugé. Tu sais que depuis maintenant, là, il y aura des filières en réemploi et en revalorisation avec des cabinets d'études qui vont se former. Enfin, ça va être la folie.
J'espère.
Tout sera parti de maintenant, c'est sûr. On revient, si tu veux bien, Joanne, à l'impact du BTP. Dans ce que tu disais tout à l'heure pour présenter Mineka, j'avais un peu l'intuition, le sentiment que ce n'était pas quelque chose que tu découvrais, c'est-à-dire le gâchis de ressources énormes de la filière, mais que quand même, quand tu as fait ton mémoire, tu as levé le voile sur quelque chose dont tu n'imaginais pas l'étendue. Est-ce que tu peux nous en redire un petit peu plus pour qu'on prenne à quel point vraiment il y a un gâchis de ressources qui est complètement dantesque dans le bâtiment ?
Le bâtiment et les travaux publics dans le monde, c'est le premier extracteur de ressources naturelles et de ressources premières au monde, c'est-à-dire qu'on va puiser dans la terre, dans les ressources, énormément, énormément de matière pour créer de nouveaux matériaux. Ça génère énormément de conflits, mais aussi ça pèse aussi sur les écosystèmes et c'est le secteur le plus émissif en déchets au monde. Et donc tout ça, on le savait déjà. C'est aussi l'un des secteurs le plus polluant parce qu'il faut faire venir tous ces matériaux de très très loin, il faut les transformer. Bref, il y a une énergie grise derrière le bâtiment qui est énorme et donc son empreinte carbone est gigantesque. Et donc ça, c'est pour la production. Et puis après, en aval, il y a toute la production de déchets. On sait qu'il y a des déchets amiantés, des déchets dangereux dont on ne peut pas faire aujourd'hui grand-chose, en tout cas à notre échelle pour Mineka. Et en fait, il y a une pratique qui existe depuis des millénaires qui est le réemploi de matériaux et qui a été de plus en plus oublié à cause de la révolution industrielle où on a généré de nouveaux matériaux qui venaient de plus en plus loin pour construire plus vite. Et puis, il fallait aussi détruire plus vite. Et pour détruire plus vite, il faut détruire moins cher et donc ne pas garder l'élément pérenne, c'est-à-dire qu'il faut le démolir très, très vite.
Ouais, c'est la course en avant perpétuelle. Hein.
Exactement, c'est ça. Et donc, en fait, c'est une pratique qui est en train de revenir parce que le bâtiment est en train de se conscientiser. Il y a des architectes qui, depuis très longtemps, sont impliqués, veulent faire du réemploi parce qu'ils sont conscients des problèmes qui sont liés au monde du BTP. Et donc, le réemploi est en train de revenir, en tout cas dans les pays industrialisés, comme la France, parce qu'il est dans les pays plus... dans les pays émergents, c'est une pratique qui a toujours eu lieu et qui continue.
Ouais, tu le disais, dans le monde, c'est la première source de déchets, pas que dans le monde, en France aussi, c'est exactement le cas. Je regardais sur votre site que rien que pour la ville de Lyon, on parle de 850 000 tonnes de déchets qui sont... lié directement au BTP. C'est vraiment quelque chose de dantesque. J'avais vu ce chiffre à peu près, que je vais ressortir là de mon chapeau, qui disait que lissé par Français à l'échelle du territoire, en gros, un Français, si lui produit 500 kilos de déchets en moyenne, un peu plus de 500 kilos de déchets en moyenne, quand on intègre la production de déchets du bâtiment, on dépasse les 10-12 tonnes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinairement élevé. Hein.
Exactement, c'est ça. En gros... Les déchets du BTP, c'est trois fois plus que les déchets ménagers. Donc forcément, il faut faire quelque chose parce que bien qu'on soit tous à notre échelle, en tout cas, je parle pour ceux qui travaillent chez Mineka, tous plus ou moins investis dans des démarches de zéro déchet, des démarches personnelles, on fait très très attention. Mais quand on sait que le BTP génère trois fois, quatre fois plus de déchets, on dit que voilà, c'est à cet endroit-là où il y a de l'impact aussi à avoir. Et puis, c'est notre métier et on veut agir sur notre corps de métier, sur notre domaine professionnel.
Je vais te faire une confidence, Joanne. Pour financer mes études de 16 ans jusqu'à 24-25 ans, j'ai travaillé dans le BTP. J'étais électricien frigoriste. Et du coup, je travaillais sur des chantiers, ma foi, de maisons neuves jusqu'à des choses un peu plus complexes dans des usines. Et j'ai vu à quel point, dans ce milieu, on ne perd pas de temps à faire de petites économies. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais entre le moment où tu remplis ton camion, le moment où tu arrives sur ton chantier, le moment où tu dois tirer tes longueurs de câbles ou de gaines, etc., etc. Disons que s'il y a un mètre perdu par-ci, 10 mètres perdus par-là, et que finalement on a marché sur telle bobine, et que bon ben on s'embête pas, et encore plus au moment où on récupère tous les déchets, aller dans la déchetterie pour faire en sorte de revaloriser au mieux chacun de ces déchets, c'est quelque chose qui est presque jamais fait. Comment a été reçu un projet comme le tien quand on sait que ces considérations, elles sont quand même assez loin d'être répandues dans le milieu?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi dans le sens où, bien sûr, ton exemple, c'est des pratiques qui se retrouvent, mais ce n'est pas généralisé au milieu du BTP. Et j'imagine que, je ne sais pas quel âge tu as, mais ça devait être il y a quand même une bonne dizaine d'années.
Ouais, c'est ça.
Le milieu a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Après, ça va dépendre aussi des territoires. Mais plus le temps passe, plus aujourd'hui, on impose aux entreprises de faire très attention à leurs déchets. Et sur des projets, notamment de maîtrise d'ouvrage public,
d'accord.
On commence à imposer des quotas, des objectifs de tri et de réemploi. Donc, ce qui n'existait pas du tout il y a 10 ans. Et ensuite, il y a des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres. D'autres ne le sont pas du tout, qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec les économies que pourrait générer, par exemple, un service proposé comme Ineca ou alors l'environnement, pour eux, c'est pas leur problème parce que les déchets qu'ils génèrent, en fait, c'est le maître d'ouvrage, donc celui qui fait construire, qui paye. Donc, ils n'y voient pas forcément quelque chose à gérer. En revanche, ce qu'on a vu, nous, en rencontrant énormément d'entreprises du BTP, que ce soit du chef de chantier à l'ouvrier, on va dire toute la chaîne de valeur, tous les acteurs de la chaîne de valeur, la phrase qui revient souvent, c'est que ça fait mal au cœur. Et en fait, ça fait mal au cœur de voir tous ces éléments jetés. Donc, des fois, les gens se servent un petit peu comme ça sur les chantiers, mais ça reste très parcimonique. Et puis, ils peuvent pas. Enfin, je veux dire, on va dire que cette économie, c'est pas une économie souterraine, mais c'est tu vas au resto, il reste un bout de pain, tu te dis je veux pas le jeter, je le prends, je le mangerai ce soir chez moi. Là c'est un peu pareil, sauf qu'en fait les ouvriers d'un chantier, ils récupèrent un petit peu pour chez eux ou pour d'autres chantiers, mais ils peuvent pas absorber tout ce qui est généré. Et en fait ces éléments là ne sont pas traités en réemploi parce que il y a pas ou peu de structures qui le font, donc d'où l'intérêt et le potentiel de Mineca.
Et du coup, dans votre Minestock, il y a autant des particuliers que des professionnels. Quel est le ratio?
Alors aujourd'hui, il y a surtout des particuliers. On va dire que c'est entre 60 et 70% de particuliers. Le reste, c'est des professionnels et des associations. Et beaucoup d'associations, nous professionnels, associations, c'est un petit peu la même chose. Parce qu'on travaille, par exemple, Mineca, c'est une association, mais on se montre comme une entreprise classique, c'est-à-dire avec des objectifs, avec des salariés, etc. C'est juste que le statut n'est pas le même. Et il y a beaucoup d'associations qui sont engagées dans la construction durable, qui viennent se fournir chez nous, ou dans la construction alternative, sur la métropole de Lyon.
Si je comprends bien l'intérêt de récupérer, de revaloriser des matériaux au niveau écologique et au niveau économique, hein, sans doute, tu parlais de prix solidaire tout à l'heure, j'imagine peut-être à tort que le fait d'intégrer ces nouveaux matériaux dans une construction nouvelle, c'est une contrainte. Une contrainte parce que on n'a peut-être pas toutes les pièces, une contrainte parce que peut-être que c'est pas exactement le style, l'ergonomie qu'on cherchait. Je me trompe ou pas?
Je suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où Aujourd'hui, les métiers de la construction, il y a déjà énormément de contraintes. La France est le pays des normes. On ne peut pas construire un bâtiment comme ça, en un claquement de doigts. Il y a énormément de contraintes, de prospects, de PLU, de plans locaux d'urbanisme à respecter. Ouais. Et donc, le réemploi, c'est, en tout cas de mon point de vue, une contrainte de plus. Après, c'est faire et c'est construire autrement. C'est faire avec ce qui existe déjà, c'est faire avec le déjà là. Si, par exemple, une personne vient chez Mineka et dit bah moi je veux un bout de bois de 35 par 40 avec une essence très très spécifique en wenge, très rare, wenge qui est un bois exotique, avec un pot de peinture d'un râle très spécifique, je dis n'importe quoi, le râle 642, s'il vient avec
ça va être compliqué.
Des idées toutes faites, là, ce sera compliqué pour lui. Mais s'il vient avec un peu l'esprit libre et s'il arrive à adapter son projet aux matériaux qui sont là, avec ce qui est déjà là, le réemploi, c'est faire avec le déjà là. Et donc bah là, ce sera plus une contrainte.
Si on met la revalorisation au début du projet, en fait, c'est presque même une libération.
Ça peut être une libération. En tout cas, c'est faire autrement et c'est construire autrement. Et c'est d'abord... C'est aussi une autre manière de concevoir, c'est-à-dire que le temps de conception du projet n'est pas le même, parce que on va pas choisir ces éléments, ces matériaux sur catalogue, mais plutôt se laisser une marge de manœuvre en disant bon bah peut-être que je vais pas trouver les fenêtres de 2,80 par 1,30, mais du coup mon projet va bouger et quand je vais trouver les fenêtres en réemploi que j'aurais sourcé, et ben là j'adapterai mon projet, je pourrais déposer mon permis de construire à ce moment-là.
Je comprends au niveau micro comme tu le dis j'ai l'impression que surtout au niveau macro, en tout cas à l'échelle d'une région voire d'un pays, c'est une formidable opportunité. Souvent on nous dit le problème avec les écolos, c'est que en fait vous générez pas de croissance, vous générez pas d'emploi, vous générez pas de revenus. Là, j'ai l'impression qu'en fait l'idée de pouvoir reproduire des Mineka partout sur le territoire, ça serait au contraire une formidable opportunité économique, une formidable opportunité de création d'emploi, non ?
Tout à fait. Le réemploi, mais justement comme tu le dis dans sa forme macro, pas que ce que fait Mineka, mais c'est aussi créer de l'emploi, c'est revaloriser les savoir-faire artisanaux, c'est créer des nouveaux métiers comme des valoristes.
Tu dis des valoristes, ça veut dire quoi ?
C'est des personnes qui vont collecter les matériaux et qui les remettent, qui les reconditionnent, qui les remanufacturent. C'est-à-dire, par exemple, demain, on va récupérer un gisement d'une tonne de panneaux de bois. Et sur ces panneaux de bois, qui font 2 mètres par 3, il y a 20 cm sur le côté gauche qui ont pris la pluie.
D'accord.
Mais si on redécoupe ces 20 cm, ce panneau de bois, il est toujours viable. Bah, du coup, un valoriste va redécouper ces 20 cm de bois. Ou le nettoyer.
Donc ça, c'est un exemple de métier qui pourrait se propager.
Tout à fait.
Et donc, tu disais qu'à l'échelle d'un pays, il y avait un vrai intérêt économique.
Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi, en fait, c'est du circuit court aussi. C'est aller chercher des matériaux pas très loin. On sait qu'aujourd'hui, le BTP, ça génère des conflits. Des conflits armés, la crise du sable, c'est une pression sur certaines populations, sur des populations humaines, mais aussi sur des populations animales. Et en fait, le réemploi, c'est faire avec ce qu'il y a et ce qu'il y a ici. Donc après, on peut aller un petit peu plus loin en suivant les contraintes qu'on veut se mettre, mais c'est aussi favoriser les circuits courts.
J'ai l'impression qu'on en est au balbutiement ou je me trompe sur ces sujets-là. Et toi, est-ce que tu vois un réel engouement ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes, un peu à tous les niveaux, qui viennent voir Mineka en disant « mais c'est génial, il y a vraiment quelque chose à faire ». Dis-moi un peu comment tu vois les perspectives dans les 2-3 prochaines années.
Alors, quand on a commencé, on nous prenait pour des fous.
Ouais.
On nous prenait un peu de haut en se disant « ils vont pas y arriver, elles vont pas y arriver », parce qu'au début, c'était que des femmes chez Mineka. Et au fur et à mesure, on a expérimenté, on a collecté des matériaux. Et là, de plus en plus, on nous a fait confiance. Et aujourd'hui, après 4 ans, on est extrêmement sollicité, que ce soit pour de l'expertise, mais aussi pour collecter des matériaux. Aujourd'hui, on ne peut pas tout gérer parce qu'il y a beaucoup trop de gisements. Il y a un petit peu moins de demandes dans le sens où il y a tellement, je rajoute un tellement, mais il y a tellement de déchets qui est produit par le secteur du BTP que Mineca ne peut pas tout absorber. Et tout n'a pas un potentiel de réemploi. Par exemple, des bidets. Aujourd'hui, on ne récupère pas de bidets parce que c'est un sanitaire qui est tombé en désuétude et que plus personne ne veut mettre de bidets chez lui, quoi. Et en fait, il y a aussi une émulation collective. Et il y a, quand tu parlais d'avoir plein de Mineca dans toute la France, aujourd'hui, sur chaque territoire, il y a un projet similaire à Mineca qui est en train de se monter. Donc, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Il y en a quelques-uns qui sont plus avancés que nous, puis d'autres qui sont moins avancés. Et il y a vraiment, vraiment, on sent que le réemploi de matériaux de construction est en train d'exploser en France.
Merci, Joanne, pour cette première partie vraiment passionnante, l'expérience que tu mènes avec Mineca, ton témoignage de la progression du secteur dans les 10 dernières années, c'est hyper inspirant. Moi, en tout cas, ça montre que ça bouge un peu dans tous les milieux, et même si ça s'active dans le bâtiment, alors là, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Avant de voyager vers les utopies réalistes, hein, on va partir ensemble en 2030 glorieuse. J'aime à terminer la première partie par un cadeau que l'invité nous fait. Je lui demande à chaque fois, bah, voilà, de nous offrir une parenthèse d'inspiration, de nous ouvrir une fenêtre à travers la littérature, parce que je suis persuadé que tout autour de nous, dans nos étagères, il y a des livres déjà qui nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le fameux monde de demain dont on parle de plus en plus souvent en ce moment, et c'est tant mieux. Toi, qu'est-ce que tu vas nous partager ?
Alors, je vais vous lire un extrait de la pièce Antigone qui a été écrite par Jean Anouilh dans les années 40. C'est un dialogue entre Créon, le roi de Thèbes, et Antigone, sa nièce. Je ne sais plus ce que tu dis, tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rires. Votre sagesse, votre ventre, elle rit. Ah, je ris, Créon, je ris parce que je te vois à 15 ans, tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. Ta vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin ? Pourquoi veux-tu me faire taire ? Parce que tu sais que j'ai raison. Je crois que je ne lis pas dans tes yeux que tu ne le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Le tien et le mien, oui, imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai bien été sage. Je vais être sûre de tout aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Allez, commence, comme ton père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne reste vraiment plus la petite chance d'espoir vivante, la plus petite chance d'espoir à étrangler. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus, quand il le rencontre, votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Voilà.
Merci Joanne. Pourquoi tu as voulu choisir cet extrait ?
C'est une pièce que j'ai découverte au lycée qui m'a toujours parlé. Et en fait, c'est... Voilà, pour moi, ça représente la révolte d'une jeune fille qui contre le pouvoir se révolte contre le pouvoir établi. Et on va dire que personne ne croyait en elle. C'est un peu une petite chose dans un coin qui est un peu mal considérée. Et en fait, elle se bat pour ses convictions, quoi qu'il en coûte. Et elle veut pas vivre à demi. Et donc, elle préfère mourir et défendre sa cause plutôt que de se taire et de suivre le chemin qu'on lui impose.
J'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup en ce moment cette énergie, notamment dans le mouvement de la jeunesse, de la jeunesse pour le futur. Il y a Fridays for Future, il y a Youth for Climate, c'est tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui se fait assez facilement là, non ?
Oui, j'ai l'impression que la génération des millennials est très engagée, en tout cas plus que ma génération, la génération Y. Moi, je me suis engagée très tard, même si j'ai toujours eu des convictions. C'est venu beaucoup plus tard et j'ai l'impression que la génération des millennials s'engage très tôt, vers 16-17 ans. Et je trouve ça vraiment très bien.
Très enthousiasmant, je suis d'accord avec toi. Et on va partir du principe que cette génération des millennials, son engagement a pesé dans la construction du monde de demain et dans une construction d'un monde beaucoup plus résilient, solidaire, durable. On est, ça y est, en 2030 glorieuse, ensemble. On va essayer de parler au présent comme si nous nous retrouvions en 2030 glorieuse, 10 ans plus tard que notre époque actuelle. Je sais hein, que nous, les Français, on n'est pas très très forts pour laisser libre cours à notre imagination et encore moins pour laisser la place à l'optimisme. Et pourtant, j'aimerais qu'on essaye là, pendant les 15 prochaines minutes, de vivre dans un monde d'utopie réaliste. Je crois que personne ne nous enverra de mail de menaces hein, si jamais tout ce qu'on dira ne se passera pas. Mais j'aimerais bien qu'on s'essaye parce que comme un voyageur a besoin de tracer un cap pour savoir par où il commence. On se retrouve dans ce moment de notre société où on rêverait d'aller vers quelque chose de plus enthousiasmant, mais on n'arrive pas à imaginer quoi. Et donc, on se retrouve un peu perdu entre lever la tête et avancer. Et à force, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre un temps précieux. On est en 2030 glorieuse, Johan. Ça y est, c'est sûr, on y est. Tu as peut-être senti bouger ta chaise au moment où je parlais de tout ça. Tu te projettes dans ces utopies réalistes, tu ouvres les yeux et qu'est-ce que tu vois ?
Je vois un monde où le réemploi est devenu facile, où c'est devenu aussi facile que d'utiliser les matériaux classiques. Ça a créé beaucoup, beaucoup d'emplois. Il y a plein de petits minéka, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est pas forcément sous le nom de minéka. Ça peut avoir beaucoup d'autres noms. Et en plus de ça, il y a aussi, vient s'ajouter au réemploi, les matériaux biosourcés. Et donc aujourd'hui, on peut, en 2030, avoir une maison ou un immeuble ou une tour de centaines ou de dizaines d'étages avec des matériaux de réemploi en bois et en matériaux biosourcés.
Ouais, c'est rigolo que tu parles de la tour de centaines d'étages parce que dans les romans de science-fiction de l'époque, les films d'anticipation aussi, quand on parlait du futur, on proposait souvent l'image de villes tentaculaires qui montaient même parfois jusqu'aux nuages, tu sais, comme dans le cinquième élément ou Blade Runner, on avait un peu ces images de villes qui n'avaient pas de limites. Toi, la ville en 2030 glorieuse, elle peut potentiellement ressembler à ça ?
J'espère pas.
Mais tu disais des immeubles de centaines d'étages. On peut avoir des immeubles biosourcés, des immeubles revalorisés en 2030 glorieuse ?
Alors peut-être pas de centaines d'étages, parce que la ville est ultra dense. On se rend bien compte qu'en temps de canicule, c'est pas vivable. Mais de plusieurs dizaines d'étages, pourquoi pas ?
Et qui a gagné ? La Smart City ultra connectée ou la ville low-tech dans laquelle la nature a retrouvé une place prépondérante ? À quoi tu rêves pour 2030 glorieuse ?
Je pense qu'il faut que la Smart City et la ville low-tech se rencontrent.
Ouais.
À mi-chemin. Parce que ce sont toutes les deux des extrêmes. Et je pense que la technologie peut servir... peut servir la ville, mais pas à outrance. Et le low-tech, c'est la simplicité. Et faire vraiment se rencontrer les deux, Utiliser les deux à bon escient et en les mêlant, je pense que c'est ça l'avenir de la ville.
Quels sont les exemples concrets alors de ce subtil mélange entre Smart City et Ville Low-Tech en 2030 glorieuse? Est-ce que tu as des choses comme ça qui pourraient tout de suite nous éclairer sur à quoi ressemble cette ville?
Là, tout de suite, je pourrais pas te dire. Je pourrais utiliser que des mauvais exemples pour dire que j'ai pas envie de voir ça demain. J'ai pas envie de voir des milliers de trottinettes électriques qui finalement finissent dans le Rhône ou la Saône.
Bah, il n'y en a plus hein, d'ailleurs. Hein. Tu te souviens, il y a 10 ans en arrière, il y a Uber qui avait été beaucoup pointé du doigt pour tous les vélos jump rouges qui finalement étaient inutiles, pas viables économiques et donc détruits. Et je me rappelle que les médias en avaient beaucoup parlé et donc ça avait un peu mis la fin à tous ces vélos de free-floating, comme on appelait ça à l'époque, qui était une hérésie parce que, en fait, détruit quasiment dans la foulée et écologiquement pas viable du tout. Hein. Donc ça c'est fini. Les trottinettes, c'est fini.
Mais en revanche, des transports en commun qui vont encore plus loin qu'aujourd'hui,
ouais.
Qu'ils soient avec chauffeur ou sans chauffeur, mais qui vont vraiment dans des banlieues... dans des périphéries beaucoup plus éloignées qu'aujourd'hui et qui permettent en fait d'avoir des migrations pendulaires sans la voiture.
Pour ça, il y a aujourd'hui une association aussi qui nous aide beaucoup, hein, qui passe par la Big Data en 2030 glorieuse, bien sûr, je dis aujourd'hui pour 2030 glorieuse, qui s'appelle Base Impact. Eux, ils se sont fait connaître au début, il y a quelques années en arrière, en travaillant avec la Big Data pour aider les gens à retrouver du boulot. Et depuis, ils reprennent toutes les données justement de déplacement des employés notamment pour optimiser les transports en commun. Là, c'est une belle utilisation de la Big Data parce qu'en fait, ils ont réussi à optimiser au mieux le transport et donc le trafic pour répondre à presque l'échelle exacte des capacités nécessaires pour pouvoir déplacer tout le monde de manière la plus confortable possible. Ça, c'est une belle utilité de la Smart City, finalement.
Oui, tout à fait.
Et on parlait à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Johan, à l'époque, on parlait des déchets, on commençait péniblement à parler de circularité. J'ai l'impression que ça a complètement changé. Hein. En 2030 glorieuse, la notion de déchet, elle n'existe presque plus, non ?
Ah ben, le statut de déchet n'existe plus du tout. Sauf pour des vieux matériaux qui sont encore dangereux ou qu'on en retrouve encore de temps en temps sur des bâtiments qui n'ont pas encore été déconstruits ou restructurés, qui contiennent de l'amiante. Et on a réussi à transformer l'amiante grâce à un processus très spécifique en nouveaux matériaux, plus du tout dangereux. Et aujourd'hui, en fait, le statut de déchet n'existe plus du tout. Et on utilise toutes les ressources, on fait circuler toutes les ressources, que ce soit pour du recyclage ou du réemploi. Et aujourd'hui, on parle de ressources et non plus de déchets.
Comment on a réussi à faire en sorte d'accompagner la transition des villes à nouveau vers les campagnes? Parce que 2030 glorieuse, c'est aussi un moment où j'imagine beaucoup de personnes se sont rendues compte de leurs besoins de nature, de leurs besoins de place, de leurs besoins de connexion à l'autre dans des communautés à taille humaine. Comment le BTP a réussi à accompagner cette nouvelle manière d'habiter le territoire sans trop gâcher de ressources?
Déjà, il y a eu une redensification des milieux ruraux, c'est-à-dire une réhabilitation des centres-bourgs qui avaient été délaissés ces 60 dernières années. Et donc, en fait, on a repeuplé ces centres-bourgs et réhabilité des bâtiments qui existaient déjà, mais qui étaient en train de tomber en ruine. Donc, en fait, on a redensifié des terrains qui étaient dans ces bourgs mais qui étaient vides, ce qu'on appelle une dent creuse, et on a fait de la mutualisation, donc la mutualisation par exemple d'appareils électroménagers. On a fait des outils tech, donc tout le monde partage ses outils ou son électroménager, ce n'est pas chacun à son aspirateur ou chacun à sa perceuse, mais on est dans une société collaborative et coopérative qui partage ses ressources parce que ce n'est plus viable d'avoir chacun sa perceuse pour le temps qu'on utilise, à savoir 1% dans l'année.
Et puis tu te souviens, ces lotissements qui étaient tous avec les mêmes maisons, et puis à l'intérieur, on avait tous les mêmes meubles. 2030 Glorieuse, l'habitation, c'est devenu quelque chose presque d'unique. Aujourd'hui, construire ou plutôt rénover son logement, c'est devenu une expérience créative ultime, en fait.
Tout à fait. On s'est réapproprié des savoir-faire. C'est le faire par soi-même. C'est la confiance en soi aussi, parce que faire par soi-même, on se rend compte qu'on a des compétences. Clouer, visser, finalement, c'est à la portée de tous. Et donc, après, chacun y ajoute sa petite patte et fait de son chez lui, son chez lui. Et ce n'est plus... un chez lui qui ressemble à la page Instagram de tel ou tel influenceur ou de telle grande enseigne. Chacun s'est à réapproprier sa décoration et son chez lui.
Toi, Joanne, en 2030 Glorieuse, tu travailles toujours pour Mineka ?
Oui, tout à fait. En 2030, je fais ce que je faisais en 2020, mais en beaucoup plus gros. Et puis surtout, Mineka a créé beaucoup d'emplois. Et donc, on est sur des plus gros projets d'accompagnement aussi. Et il se peut qu'on ait monté aussi une boîte d'archi spécialisée en réemploi de matériaux.
Ouais. Est-ce que ça... Il y avait une idée, à un moment, de créer aussi une école de la revalorisation, de former à ces nouveaux métiers, ou finalement, ça n'a jamais été trop dans le giron de Mineka ?
On a participé à des formations. On est sollicité pour être formateur, mais
en tant qu'expert,
faire une école en tant que Mineka, c'était pas le but.
Ouais, vous êtes aujourd'hui des experts de ces sujets en France, et c'est fou parce que il y a quelques années, je peux en parler, quand on disait qu'on travaillait dans le BTP, c'était pas forcément quelque chose de très valorisé, hein. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on voit que le BTP, ça fait partie de ce secteur dynamique et créatif en France, et je crois que ça a retrouvé un peu son attrait, non ?
Alors On avait l'habitude de dire il y a 10 ans, il y a 20 ans, que quand le BTP va, tout va. Mais c'était à l'encontre de certaines... à l'encontre de la préservation de l'environnement et d'autres choses. Et aujourd'hui, en 2030, le BTP est devenu beaucoup, beaucoup plus résilient. Et aujourd'hui, la maxime s'applique tout autant, mais en respectant les populations et l'environnement.
Joanne, j'ai une dernière question pour toi. Quand on parle de 2030 Glorieuse, effectivement, ça peut paraître loin. Et à la fois, c'est seulement dans 10 ans. Les personnes qui nous écoutent, là, elles vont poser leur casque ou éteindre leur ordinateur et retourner à leur quotidien. Qu'est-ce que tu leur proposes, toi, comme premier pas concret pour justement cheminer vers ce 2030 Glorieuse qu'on a ouvert ensemble ?
De dire non et d'arrêter d'avoir peur.
De dire non à quoi ?
De dire non à tout ce qui nous empêche, en fait, de nous engager. Que ce soit les lobbies, que ce soit le déterminisme social, le déterminisme parental, familial, tous les déterminismes qui nous enferment, en fait, à rester bien tranquillement sur son canapé, à regarder des émissions et à regarder de la pub qui nous pousse à consommer. Et où on se dit, mais en fait, est-ce que tout ça, j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que, en fait, je ne serais pas plus heureux autrement ? Est-ce que je n'ai pas envie d'agir ? Dire non à tout ça. Et surtout, ne pas en avoir peur, parce que quand le pas est fait, même si des fois le cheminement est difficile, on n'a plus du tout envie de retourner en arrière, parce que c'est tellement épanouissant et... porteur de sens qu'il n'y a rien de plus satisfaisant.
Merci Joanne.
De rien.
Et voilà, cet épisode avec Joanne vient de se terminer. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Je suis très content d'avoir pu évoquer ces sujets du BTP, du réemploi avec Joanne et de vous les avoir fait découvrir, parce que je suis persuadé que c'est un enjeu absolument crucial dans le fameux monde de demain. Et ce qui me plaît avec Joanne, c'est qu'elle, elle n'a pas attendu de nos chers décideurs l'autorisation pour agir. On parle beaucoup en ce moment des mondes de demain, et à la fois, en fait, plus on en parle et moins on en fait, alors qu'il y a des milliers, des dizaines et des centaines de milliers d'exemples comme Joanne, de personnes qui se sont dit, mais en fait, je n'accepte plus le statu quo de mon domaine, là en l'occurrence le bâtiment, et j'ai décidé de me poser des questions, de me réapproprier ces sujets, parce qu'en fait, actuellement, le gâchis extraordinaire de ressources, de personnes, ça ne me plaît pas. Et donc l'exemple de Mineka, de revalorisation, c'est passionnant parce que ça montre que, en fait, avec un petit peu d'envie, on arrive à créer une boucle vertueuse qui est à la fois intéressante au niveau écologique, qui est à la fois intéressante au niveau social et économique. C'est vraiment ce type d'initiative qui mérite de se propager à l'échelle nationale et internationale. Et j'en suis sûr, c'est vraiment des filières qui vont être en plein boom et des métiers qui vont être fortement impactés par ce type de pratique. Donc, qui sait, peut-être que dans 10 ans, vous serez, vous, réorienté vers ces milieux et que peut-être vous travaillerez à la revalorisation de matériaux dans le bâtiment. Qui sait ? Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode et je vous dis à bientôt. Salut ! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui.